Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, un cinérama d'après Cannes. Et bien généralement, quand il y a Cannes, nous en parlons. Et surtout toi, Marine, tu vas revenir sur cette édition.
Oui, voilà un petit retour subjectif et non exhaustif donc, de cette édition 2015 cannoise. Et je vous parlerai aussi justement d'un film qui était à la quinzaine des réalisateurs, Trois souvenirs de ma jeunesse de Despéchins.
Et puis toi Manu, eh bien, Le Corman, hein, puisque c'est la nouvelle série que tu prépares pour la fin d'émission. Et puis un autre film assez surprenant.
Et à la poursuite de demain du réalisateur de Ratatouille et des Indestructibles.
Et puis moi, eh bien, j'ai pu voir Arnold Schwarzenegger dans un mélodrame, avec des zombies quand même. C'est le film Maggie qui sort le 27 mai. Et puis eh bien, j'ai pu préparer, comme à l'accoutumée aussi, un petit montage sur le palmarès de cette édition cannoise. C'est Cinérama qui débute.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Alors pour une production estampillée Disney, le moins que l'on puisse dire est qu'À la poursuite de demain fait preuve d'une audace narrative et formelle assez rare pour être signalée, au point de se demander quelle mouche a piqué les producteurs d'accepter un tel projet qui sort réellement des sentiers battus. Alors certes, le nom générique de Brad Bird n'y est pas étranger, hein, le réalisateur de Ratatouille, des Indestructibles, mais aussi de Mission Impossible 4, prolonge avec délectation son goût pour les histoires humanistes, nous plongeons ainsi dans un monde rétro-futuriste qui n'est pas sans évoquer son premier long métrage d'animation, l'excellent Le Géant de Fer.
Et s'il existait un endroit ? Un endroit secret. Où rien n'est impossible. Un endroit prodigieux. Où il serait possible de changer le monde. Tu veux y aller ?
Alors, adolescente surdouée et curieuse, hein, du moins dans les secteurs scientifiques, Kazer rencontre Frank, jadis inventeur de génie, mais qui semble avoir perdu ses illusions. Alors, ils sont réunis pour ce qu'on devine très vite, être un cyborg pour une mission délicate afin d'éviter l'extinction de la vie sur Terre. Alors, ils vont découvrir un lieu unique, Tomorrowland, situé quelque part dans le temps et dans l'espace. Alors, l'accès à cette dimension parallèle passe par une idée aussi simple et efficace en termes de narration. Il suffit de toucher un pins et hop, nos deux héros se retrouvent dans un endroit merveilleux. Alors, sorte de meilleur des mondes, hein, sans l'aspect un peu fascisant et inquiétant chez Huxley. Alors, ce lieu n'existe apparemment que dans leur mémoire commune. Alors, pourquoi ? Il y a une raison que je ne permettrai pas de dévoiler. Hein. Résumer le film comme ça peut paraître simpliste, mais la richesse du script est l'une des premières qualités, mais aussi l'un des défauts de cette étrange proposition, l'une des plus stimulantes des studios Disney depuis des lustres. Alors, truffé d'idées originales, hein, et fantaisistes, brouillant les pistes à plusieurs reprises, évitant intelligemment d'intégrer des figures maléfiques, le scénario est néanmoins bancal, parfois confus aussi, et ne semble pas toujours prendre la direction adéquate. Alors là, s'il y a un problème de direction, en quelle direction le film s'adresse, c'est beaucoup trop compliqué pour les moins de 12 ans. Hein. Et puis, j'ai l'impression que les plus âgés sont attirés par d'autres films, plus adolescents, avec des préoccupations qui leur ressemblent davantage que ce film assez naïf et désuet en même temps. Alors, La Poursuite de Demain se moque aussi, avec beaucoup de malice, hein, de la mode des films dystopiques, style Hunger Games ou Le Labyrinthe. Alors, Brad Bird, avec tout le savoir-faire qu'on lui connaît, développe un discours optimiste et humaniste en s'appuyant sur une thèse aussi évidente que simpliste. Il existe en ce bas monde une poignée d'individus de tous les milieux, races, corps de métier, capables de réguler le monde et d'éviter les catastrophes naturelles ou non. Alors, assez édifiant, mais un message sympathique, notamment pour, je pense que pour les enfants, ça pourrait être très bien, si le film n'était pas si complexe. Hein. Alors, sans rien révolutionner, hein, La Poursuite de Demain est un joli film, écolo et progressiste, hein, magnifié par des effets spéciaux superbes et une direction artistique étourdissante. Alors, la présence de l'acteur un peu citoyen, George Clooney, ne fait que renforcer l'idéologie du film. Donc moi, je conseille quand même, hein, mais j'ai l'impression que le film va être un bide, si ce n'est pas déjà fait.
Alors, assez étrange, hein, parce que c'est quand même Disney qui est derrière tout ça, et ils ont l'habitude, à mon avis, de faire tout un tas de tests, hein, sur les potentiels spectateurs.
Oui, mais le film est complexe d'un point de vue de la narration. C'est-à-dire que moi, pendant trois quarts d'heure, je ne savais pas où le film voulait en venir. C'est un peu là-dessus qu'il risque de ne pas avoir le même succès que les précédentes productions, en fait.
Donc, bah, voilà, virage annoncé, hein, du coup, de Disney. Si même les enfants n'arrivent plus à comprendre, alors là, voilà. C'est Cinérama qui va continuer avec le petit épisode cannois.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Alors, avant de t'écouter, Marine, hein, sur le retour de cet épisode cannois, nous allons écouter un petit condensé de la cérémonie qui s'est déroulée ce dimanche.
Quel bonheur de vous retrouver, quel bonheur, vous êtes tous vraiment magnifiques. Le jury du 68e Festival de Cannes.
Je n'irai pas par quatre chemins, il faut que je vous avoue la vérité. Je suis très pressé.
Le réalisateur mexicain, Guillermo del Toro, Rosy de Palma, Sian Andela, Jake Gyllenhaal, Okia Traoré, Xavier Dolan, Sophie Marceau.
Et messieurs, les présidents du jury, Joel et Ethan Coen. Cette année, le Festival de Cannes a tenu à rendre hommage à une cinéaste hors norme.
Mais qu'est-ce que ça signifie?
Mesdames et messieurs, Agnès Varda.
Cette Palme d'Or est un plaisir surprenant. C'est inattendu parce que les précédents récipiendaires,
hein,
Clint Eastwood, Woody Allen et Bernardo Bertolucci, avaient entre eux...
Je tiens à avoir le scoop.
Entre autres talents, celui d'avoir fait gagner des millions et d'avoir atteint des millions de spectateurs. Ce n'est pas mon cas. Je suis française, je suis femme, et mes films n'ont ni gagné, ni fait gagner de l'argent.
J'y ai beaucoup pensé, cette idée m'obsède.
Qui a obtenu le prix du scénario?
Michel Franco.
Michel Franco pour Chronic. Vous êtes mes héros tous les deux. Et vous vous améliorez avec chaque film. Vous êtes une des raisons pour lesquelles je fais du cinéma. Un grand merci à vous.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Messieurs les présidents, qui a donc obtenu le prix d'interprétation féminine?
It's a shared prize.
Le prix est un prix ex aequo.
La situation est délicate.
Partagé par Rooney Mara pour son rôle dans Carol de Todd Haynes. Et Emmanuel Berco pour son rôle dans Mon Roi de Ma Ewen.
Mais ce prix, je veux dire à Ma Ewen qu'il récompense son audace, son sens aigu de la liberté, son anticonformisme.
Attendez une minute.
Un grand merci au nom de Rooney Mara, qui est malheureusement de retour à New York, mais elle serait absolument époustouflée par ce prix qu'on lui décerne.
J'ai une sorte d'obsession.
Qui a obtenu le prix du jury? Who has obtained the jury prize?
Yorgos Lanthimos pour The Lobster.
Thank you very much.
Merci, merci à toi.
Monsieur le Président, qui a obtenu le prix d'interprétation masculine?
Comme vous voulez. Le prix est décerné à Vincent Lindon.
William Faulkner disait « Faites des rêves immenses pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. »
Je suis d'accord avec vous.
C'est la première fois que je reçois un prix dans ma vie.
Pensez-vous donc que je sois venu ici ce soir pour vous entendre dire ça?
Je sais pourquoi vous êtes venu.
Messieurs les Présidents, qui a obtenu le prix de la mise en scène?
Question intéressante.
Xu Xiaoxian pour L'Assassin.
Merci beaucoup.
Qui a obtenu le grand prix?
De pareilles occasions ne se présentent qu'une fois dans une vie.
Laszlo
Nemes pour Saofia, le fils de Saul.
J'ai essayé de parler de sujets graves à ma génération, de parler de la destruction des Juifs d'Europe, alors que ce continent est encore hanté par ça.
Je vois bien que je vous ennuie.
Alors, voyons quel cœur va battre ce soir un peu plus fort que les autres.
As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait endurer?
Messieurs les présidents du jury.
Jacques Audiard.
Pour Dipan.
Je remercie Michael Haneke de ne pas avoir tourné cette année. Michael, je me suis habillé pour toi.
Non, écoutez-moi, je suis sérieux.
Recevoir un prix de la part des frères Cohen, c'est une chose assez exceptionnelle. Il y aurait peut-être les frères Dardenne aussi, mais... Je vais essayer de ne pas trop bafouer. Ah oui.
Ah oui, parlons-en.
Alexandre Dumas fils parlait de son père, Alexandre Dumas père. Il disait, c'est cet enfant que j'ai eu si tôt. Eh bien, je pense à mon père.
Messieurs, je vous remercie, ce sera tout.
« Voilà, le traditionnel montage de Cannes où on entend eh bien, que ceux qui ont remporté les prix ont largement remercié les présidents du jury, les frères Cohen.
Oui, donc fin du Festival de Cannes qui cette année eh bien, s'est distingué par une sélection très francophone et un palmarès très français. Et si Audiard, avec son film le plus brut, dépourvu de casting connu et au style épuré, remporte sa première palme d'or, le reste de la sélection française a beaucoup fait parler mais n'a pas vraiment convaincu. Alors certes, Emmanuelle Berco a réussi à être à la fois présente en tant que réalisatrice et actrice, ce qui est rare, mais les deux autres femmes cinéastes les plus attendues de cette édition, Valérie Donzelli et Mai Wen, ont déçu. La première avec Marguerite et Julien, conte incestueux dans lequel on retrouve, comme d'habitude dans les films de Donzelli, Jérémy El-Kaïm, a déstabilisé son public à coups d'anachronismes et de postures qualifiées à tout va d'hipsterisantes. La seconde avec Mon Roi réalise une histoire d'amour fébrile et hystérique autour d'un couple malsain et d'un personnage de pervers narcissique qui a visiblement plus énervé qu'ému. A noter que Mai Wen s'est surtout distinguée cette année non pas par son œuvre, mais plus par ses propos un peu polémiques, puisque la jeune réalisatrice a déclaré que si les hommes étaient plus nombreux dans les sélections cannoises, c'était tout simplement parce que faire des films nécessitait d'avoir des hormones masculines. Alors, je pensais que c'était surtout important d'avoir une caméra pour faire un film, mais visiblement non, tout est une question d'hormones. Et évidemment, le fait que Mai Wen vienne d'une famille de cinéma et qu'elle se soit mariée à Luc Besson lorsqu'elle avait 16 ans n'a bien entendu pas du tout aidé sa carrière. Hormone toujours, le fameux Love de Gaspard Noé, indigeste et ennuyeuse variation autour du plaisir masculin, n'a visiblement pas fait bander la croisette, car malgré les quelques émeutes provoquées par le trop-plein de festivaliers qui voulaient entrer à la séance de minuit, journalistes et spectateurs n'ont pas été convaincus. On pourra en tout cas apprécier la présence des femmes qui, cette année, avaient dans la sélection une stature particulière du très féministe Mad Max, enfin, qui n'était pas en sélection, qui était hors compète, mais qu'importe, au mélodrame lesbien Carole, en passant par l'actrice taïwanaise Chucky, qui, en tueuse à gages, était dans le film de Wu Xiaoxian Assassin, les rôles féminins forts étaient légion. Chucky, donc, que l'on retrouve chez Wu Xiaoxian, auteur taïwanais de Millennium Mambo et du très beau mais très chiant Three Times, et qui était cette année en compétition avec L'Assassin, très majoritairement considéré comme la palme d'or évidente de ce festival, on aura préféré à sa mise en scène soignée un cinéma social bien plus brut, et il écope au final de l'habituel prix de consolation, le prix de la mise en scène. Dommage, en attendant donc qu'il sorte en salle, je ne sais absolument pas d'ailleurs quand il sort.
Le Wu Xiaoxian ?
Oui.
Je ne sais pas non plus.
Je ne sais pas. Eh bien, voilà.
Cannes, on a généralement jusqu'au mois d'octobre, hein, surtout pour les grands réalisateurs. Généralement, on
même
attend pas plus.
Même de Noël prochain, parfois. Mmh.
Merci Marine. Et on l'a entendu, Vincent Lindon était absolument ravi. Il est resté très très longtemps sur cette scène et il a dit que c'était la première fois qu'il avait un prix et c'était peut-être l'occasion de jouer un mini blind test surprise. Premier extrait.
J'ai l'impression que je peux vraiment être Premier ministre. Si je suis bien entouré, si je choisis des bonnes personnes, si j'ai la bonté en moi, que j'ai du bon sens, que je sais trier les bonnes et les mauvaises idées, pas tant en trouver, juste écouter et savoir repérer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, si je me rase tous les matins, que je mets un costume et une cravate, j'ai 51 ans, qu'est-ce qui empêche ? Rien.
Ah, c'est la bonne ambiance, ça a été trouvé.
Oui, c'était pas tard.
Voilà. Film d'Alain Cavalier qui était justement à Cannes, présent à Cannes en 2011. On passe à un autre registre, 2007.
Car à propos, j'ai croisé la puisée tout à l'heure. Je sais même pas ce qu'il m'a dit. J'arrivais à me concentrer sur rien, sauf ces sourcils-là qui sont trop épais. La fuite m'est totale. Ça vous a déjà fait ça, vous ? Écoutez, Bertrand, à chaque fois que je vous confie un truc pas trop glorieux, pas trop à mon avantage, vous, comme par hasard, ça vous le fait jamais, c'est vexant à la fin.
Je vais pas vous dire que je suis obsédé par les sourcils de mon cancérologue juste pour que vous vous sentiez mieux.
Et pourquoi pas ?
Parce qu'ici, c'est fait pour que les gens qui ont un cancer se sentent mieux.
Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Excusez-moi, mais...
Pourquoi vous me dites ça ?
Excusez-moi, mais on dirait toujours que vous êtes en quête d'approbation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais non, c'est normal, vous êtes quand même une bonne élève.
Non, mais...
Écoutez, chacun fait ce qu'il peut comme il peut, personne n'aura de bon point à l'arrivée. À l'arrivée de la chance, il y aura quelques survivants pour quelques temps. C'est tout. Court mais sans sucre, c'est ça.
Vous avez tout compris. Vous voyez ça de haut, hein ?
Pas du tout. J'essaie juste d'être réaliste.
Alors, Vincent Lindon et Emmanuel Devos, qui sont dans un service de cancéreux. Ceux qui restent, de Anne Leni, film de 2007. Ah ouais. Voilà. Alors, effectivement, on aurait pu penser à La Moustache, avec Emmanuel Devos un peu hystérique, film d'Emmanuel Carrère, mais non, c'était pas ça. Alors, dernier extrait, cette fois-ci, on va carrément dans la comédie.
18 mois que je me bagarre comme un fou pour constituer un dossier en béton dans un procès vital pour la boîte. Le procès en question est gagné, ça va leur rapporter des millions, et 15 jours après, on me voit la porte. Non mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mais justement, c'est parce qu'ils ont peur que tu deviennes trop cher avec cette victoire. Et puis, les statistiques montrent qu'un procès comme ça, dans une boîte, ça n'arrive que tous les 20 ans. Donc on n'a plus besoin de gens vraiment brillants pour longtemps.
Non mais c'est pas vrai. Alors si on avait perdu le procès, je ne me serais pas fait licencier.
Victor, je vais t'expliquer. Réfléchis en gestionnaire. Laisse de côté tes sentiments personnels.
Mais tu m'emmerdes. Je les laisserai pas de côté mes sentiments personnels. Comment tu veux que je laisse de côté mes sentiments personnels?
T'es pas rationnel. Si t'avais été à ma place, t'aurais fait exactement.
Mais non, de Dieu, je ne suis pas à ta place. Je suis à ma place.
Est-ce que t'as vu comment tes indemnités ont été calculées?
Mais j'en veux pas de ces indemnités.
Excuse-moi.
Je parle.
Allons.
Alors, ça a été trouvé, Manu.
La crise, voilà. De Colin Serrault.
Donc, une de ses rares comédies.
Oui, c'est pour ça. C'est pratiquement la seule.
Et
oui.
Il était beaucoup plus jeune et il n'avait pas encore cette grosse voix. Voilà. Et ce regard si caractéristique. Voilà, c'était le mini blind test dédié à Vincent Lindon, un des grands vainqueurs de ce Cannes 2015.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Paul Dédalus, figure déjà croisée dans Comment je me suis disputé ma vie sexuelle de Desplechin, rentre du Tadjikistan. Arrêté à l'aéroport car soupçonné d'être un agent double à cause de ses papiers d'identité, il se retrouve à effectuer une plongée dans son passé à la recherche de qui il est, de qui il fut.
Je suis désolé, mais il me semble qu'il y a un problème avec vos papiers.
Quel était le souci avec mon passeport?
Nous avons trouvé un autre Paul Dédalus.
Alors, qui es-tu?
Je ne sais plus.
Je me souviens.
Qu'est-ce que tu fais à Paris?
Je cultive mon mystère.
Mystérieux, tu parles. Tu veux t'inscrire sur la liste d'attente?
Je t'appelle Esther et t'es dans la classe de ma sœur. Paul, t'arrêtes pas de te manger des yeux.
Tu fais toujours cet effet-là.
Pourquoi?
Parce que je suis exceptionnelle.
Tout est effacé. Sinon, 3-4 bribes.
Je veux pas d'un fainéant dans ma maison. Ne me rapporte pas de telles notes.
Est-ce que quelqu'un t'a déjà aimé plus que sa vie? Moi, je voudrais t'aimer comme ça. Esther, tu existes tellement fort, comme une montagne. Si tu existes, ça veut dire que je ne suis pas enfermé dans un rêve. Un jour, j'ai donné mon identité. Je sais plus si je suis le bon.
Moi, je sais que t'es bien le vrai.
Le film est passé à la quinzaine des réalisateurs cette année à Cannes et malgré son absence remarquée en sélection officielle, il a reçu le prix SACD, le prix du festival remis par les auteurs à un auteur. Outre l'intéressant postulat, plutôt rare dans le cinéma d'auteur français, qui consiste à réaliser un préquel à son propre film, trois souvenirs de ma jeunesse se distinguent par une intéressante valse des registres cinématographiques. Au cours de sa longue promenade dans ses propres souvenirs, Paul se rappelle de son enfance et de la folie de sa mère, d'une dangereuse mission menée à bien en Russie et de son amour du lycée, Esther. Inclassable, le film donne corps à une plongée de l'auteur en lui-même en passant tour à tour de l'onirisme des contes au film d'agents secrets pour finir dans le quasi-mélodrame. On est très loin de l'approche documentaire qui est souvent utilisée dans les films sur l'adolescence. Trois souvenirs de ma jeunesse tend davantage à reconstituer par esquisse des impressions du passé, sans souci de véracité. Ce qui peut justement déranger. Certains y ont vu, je cite, une plongée proustienne dans le moi profond. J'ai personnellement un peu souffert du rythme très inégal de ce film, dont on ne comprend où il entend nous mener. Trois souvenirs dans sa dernière partie, celle qui dure malheureusement le plus longtemps, revient donc sur l'amour d'adolescence de Paul, Esther, une fille libre et fragile avec qui il a pendant 4 ans vécu un amour tourmenté. Et c'est là que le film prend des allures de parodie de film d'auteur français. Non content de se citer lui-même en faisant de son film une sorte de jeu de piste jalonné de références à ses propres œuvres, Desplechin réalise un film très nombriliste qui tourne en rond. Assez rapidement, le spectateur en a assez de s'apitoyer sur des problèmes de petits bourgeois qui pleurnichent face caméra sur leur histoire d'amour d'ado, racontée avec un ton monocorde. On se croirait presque chez Bresson, tant le phrasé des acteurs les fait paraître désincarnés, le couple central ayant notamment une diction très particulière que certains peuvent trouver insupportable. Le film colporte également quelques croyances romantiques éculées assez agaçantes, comme celle selon laquelle les amours adolescentes seraient fédératrices, et surtout, il érige en idéal féminin un personnage de parfaite connasse imbuvable, dont on aimerait qu'elle se fasse larguer plus vite qu'en 1h15, pour abréger nos souffrances. Trois souvenirs de ma jeunesse ne vous laissera probablement pas un souvenir impérissable, si c'est celui d'un profond ennui. En tout cas, moi, ça ne m'a pas du tout touchée. Je sais que En revanche, il a plu à quand même une certaine partie de la presse. Mais alors moi, ça m'a laissé totalement froide et ça m'a énormément ennuyée et agacée.
Mmh. Voilà. On n'est pas forcément habitué à voir ce genre de film. Après, moi, je trouve ça bien qu'il ait mélangé les genres parce que ça revient à... Première partie du film, ça revient à La Sentinelle, qui était son premier film, qui commençait avec une tête coupée, enfin, ouais, chose complètement étonnante. Et là, j'étais vraiment, vraiment dedans quand on a vu apparaître ce Paul Dédalus quelques années après. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a une partie qui peut être agaçante, c'est effectivement dans la diction, mais qui peut aussi.
Et qui est très très longue, surtout, qui est très longue. Alors que les deux premières sont assez courtes, en fait, donc assez rapides. Assez rythmée, et la troisième est très longue, elle s'étire comme ça, et c'est vraiment un problème au niveau du rythme, je trouve.
C'est l'histoire d'amour, et puis il y a ce changement, ce glissement qui intervient chez la jeune fille. Après, l'addiction de Paul Dédalus, c'est un peu comme ça dans Comment je me suis disputé, c'est-à-dire que c'est un intellectuel, il est névrosé, il a une diction particulière, et c'est pas étonnant qu'on le retrouve chez lui adolescent en même temps.
Donc que tous les comédiens ont à peu près la même aussi, ils parlent comme ça de façon désincarnée, très évanescente, comme ça. Et ça,
c'est pas forcément Bresson, hein. Enfin, moi, j'ai l'impression.
Ça m'a fait penser à ça, mais évidemment, c'est.
Je pense pas qu'il dirige les comédiens de la même manière.
Non, comme des modèles.
Oui. Hein.
Non, absolument pas. En tout cas, trois souvenirs de ma jeunesse, c'est déjà sur les écrans, film de Arnaud Desplechin.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Nous allons passer maintenant à un film avec Arnold Schwarzenegger. Une terrible pandémie se propage à travers les USA. Des mesures ont été prises par le gouvernement. Les personnes infectées doivent impérativement, à un certain stade de la maladie, aller dans un centre de quarantaine pour finir zombie. La maladie, elle est connue. Alors, on est d'abord contaminé, un peu zombie, mais toujours conscient, et ensuite totalement zombie. Et lorsque Maggie, 16 ans, apprend qu'elle a été contaminée, elle s'enfuit, mais son père, donc interprété par Arnold Schwarzenegger, est déterminé à la retrouver, à la protéger coûte que coûte. Il ne veut surtout pas qu'elle finisse avec les autres dans un centre de quarantaine où elle serait promise à la mort dans l'anonymat le plus brutal.
T'as passé 2 semaines à me chercher ?
Oui. J'ai fait une promesse à ta mère. Celle de te protéger.
Oui, mais... Et vous, alors ? Si jamais je vous contamine.
T'inquiète pas. Avec Caroline, on connaît les précautions à prendre.
Alors, il faut savoir que j'ai raccourci le dialogue, parce qu'il y avait énormément de silence. Quand je dis silence, c'était 10 secondes. Donc, avant d'être un film de zombies, Maggie est un mélodrame familial qui donne à Schwarzenegger l'occasion de jouer dans un autre registre, mais pas de lâcher les armes, car il y a quand même des zombies qui traînent, et il vaut mieux pour lui qu'il ait un fusil. Le spectaculaire, le surprenant, l'hémoglobine ou le suspense, qui seraient les ingrédients d'un film classique de zombies, sont ici remplacés par une mise en scène qui préfère la distance, la contemplation, notamment de la nature, et puis la lenteur. Alors évidemment, l'enjeu du film n'est pas tant comment la jeune fille Maggie va se transformer, mais les relations qui vont se nouer entre son père et elle. Comment il va vivre la mort de son unique fille, sachant que pour corser un peu le mélodrame, la mère est déjà morte il y a déjà un certain temps, remplacée par une belle-mère qui ne pense qu'à protéger ses propres enfants. Alors contrairement à beaucoup de films post-apocalyptiques ou de zombies, ce que Maggie aurait pu être, nul positionnement politique. Au mieux pouvons-nous voir un policier vaguement expéditif et des parents qui aussi expédient leurs enfants à la quarantaine sans trop s'y. Le reste n'est que douleur et bon sentiment. On n'échappe pas au questionnement de ce qui nous fait être humain. C'était évidemment le minimum. On voit une comparaison avec un animal. C'est aussi gros que ça. Et Schwarzy est à l'économie. Il suffit d'avoir l'air un peu triste. Mais comme à mesure qu'il vieillit, ses yeux tombent, il n'a pas grand-chose à faire au niveau interprétation. Voilà, il a juste à regarder vaguement la caméra ou vaguement un personnage. Donc, on peut vite oublier ce Maggie de Henry Hobson dont c'est le premier film. Voilà, première commande.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
On reste dans le fantastique avec L'enterré vivant de Roger Corman. Alors, Guy Carrel est un médecin obsédé par l'idée d'être enterré vivant, comme le fut jadis son paternel. Après avoir repoussé la date de son mariage avec Emily Gault, il finit par capituler. Le voilà un époux apparemment comblé. Mais très vite, sa névrose et paranoïa reprennent le dessus. Il se fait construire un tombeau machiavélique lui permettant de se sortir facilement en cas d'enterrement prématuré.
Mais regardez-moi, pour l'amour de Dieu, pitié. Vous ne pouvez pas m'enterrer vivant. Ne voyez-vous pas que je suis vivant ?
Pourquoi
Pourquoi ne puis-je bouger? Pourquoi? Non, non! Venez à mon secours! Je suis vivant! Ne m'entendez-vous pas? Regardez mon visage!
Alors, L'enterré vivant souffre d'une mauvaise réputation et est souvent considéré comme la plus faible adaptation d'une nouvelle de Poe par Corman. Alors, c'est pour ça aussi que j'en parle, afin de réhabiliter ce très beau film. Les réussites exceptionnelles de La Chambre des Tortures ou du Masque de la Mort Rouge ne doivent cependant pas ternir aussi radicalement les moins bonnes tentatives du pape de la série B. Alors, tourné entre La Chambre des Tortures, justement, et L'Empire de la Terreur, L'enterré vivant n'est certes pas un chef-d'œuvre. Le récit met un certain temps à se mettre en place. Corman ne parvient pas toujours à dynamiser un récit inégal qui prend une tournure beaucoup plus enlevée dans sa seconde partie, induisant l'idée que Guy Carrel serait en fait victime d'une terrible machination. Alors, l'intrigue tient davantage du suspense psychologique à la Boileau-Narcejacques, hein, le syndrome des diaboliques a encore frappé, que de l'épouvante gothique chère à l'auteur du Chat Noir. Alors, la nouvelle de Poe, elle est si tenue à l'origine qu'en tirer un long métrage fidèle est une hérésie en soi. Il s'agit d'un long monologue en fait existentiel sur l'horreur que subit un enterré vivant. Alors, à ce titre, d'ailleurs, Corman ne pouvait pas en tirer grand-chose. Hein. Plus prosaïque, il oriente son récit du côté des thrillers réalisés par la Hammer ou des films gothiques américains à l'instar du Château de Dragon ou Rebecca. Mais la première partie du film est quand même assez bavarde et statique. Le caractère extrêmement fauché de l'entreprise, une fois n'est pas coutume, ne parvient pas à être transcendé par les trucs poétiques du réalisateur. Alors, le directeur artistique Daniel Allaire et Floyd Crosby est plus conventionnel que d'habitude. Détail frappant, en lieu et place des châteaux démesurés avec ses pièces gigantesques dotées d'une architecture dantesque, les deux compères ont opté là pour une habitation plus étriquée, alors dans un style aristocrate petit bourgeois, sans l'éclat graphique des habituelles adaptations de Poe. Alors, Corman parvient néanmoins à quelques reprises à créer une véritable atmosphère fantastique. Les décors peints en arrière-plan transforment chaque séquence extérieure en une forme de théâtre fantastique. Mais au fond, que manque-t-il pour retrouver la poésie, la folie des meilleurs Corman? La photographie ne possède pas la flamboyance de celle du Masque de la Mort Rouge. Le scénario n'a pas la densité de ceux écrits par Richard Matheson. Et enfin, la présence de Ray Milland, par ailleurs plutôt bon, ne parvient pas à égaler les prestations uniques du génial Vincent Price, comédien en parfaite osmose avec l'univers de Poe et de Corman aussi. Alors, passé ses réserves, L'enterré vivant demeure un thriller, on va dire un plaisant thriller d'épouvante, agrémenté de quelques scènes choc bien senties, une partition musicale plutôt envoûtante, et puis pourtant signée par un remplaçant. D'habitude, c'est Lee Baxter qui signe toutes les BO, et là, il s'agit de Ronald Stein, et un dernier quart d'heure nous rappelant que nous sommes bien dans un film gothique. Et bon, je le conseille vraiment parce qu'il est assez rare et il a été souvent méprisé, considéré comme un très mauvais Corman, mais ça reste une adaptation très correcte. Surtout qu'il n'y a pas plus difficile que d'adapter Edgar Poe. Souvent, c'est 3 pages, 4 pages, pas plus. Et adapter ça, en fait, c'est des récits poétiques quasiment. C'est-à-dire que ce n'est pas étonnant que ça ait été adapté par Charles Baudelaire en français.
Et sinon, du point de vue de l'adaptation française, des voix françaises, puisqu'on a entendu un extrait, ça passe bien ou pas?
Il faut les regarder en version originale, tous ces films, hein, parce qu'ils sont relativement... c'est pas très soigné d'un point de vue du doublage, parce qu'à l'époque, il faut savoir, c'était vraiment des séries B. Donc les doubleurs n'y passaient pas 3 semaines, contrairement à une grosse production.
Et ou contrairement à un film de Kubrick, évidemment. Ouais. Voilà.
Mais ce qui est vrai aujourd'hui aussi. Hein.
Tout à fait.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama, où il a été question de Cannes. Je crois qu'il n'y a pas de sortie de film cannois à venir. Mais moi, j'irai voir Dancer, dont je parlerai la semaine prochaine.
Et puis, L'ombre des femmes.
Et puis ton Manu?
Eh ben, j'évoquerai un des Corman les plus connus et meilleurs, du coup, Le Masque de la Mort Rouge.
À bientôt.
Cinérama. Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde.
Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.